Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Tatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une envoyade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive en première flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Prisguida. Elle est championne olympique.
C'était mieux avant.
C'était mieux avant, spécial Jeux Olympiques 1952. Émile Zatopek devient une véritable star.
Ce 19 juillet 1952, jour d'ouverture des 15e Jeux Olympiques, c'est un band profondément divisé qui s'est donné rendez-vous à Helsinki. Située à moins de 200 km de la frontière russe, la capitale finlandaise est aux premières loges de la guerre froide que se livrent les deux blocs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un conflit larvé qui n'empêche pourtant pas les soviétiques de faire leur toute première apparition dans les Jeux Olympiques. Après avoir longtemps considéré les Jeux comme un symbole du capitalisme honni, Staline et sa clique ont compris que la guerre froide pouvait aussi se gagner sur les terrains. Alors, ils débarquent en Finlande, bien décidés à prouver que le modèle qui gagne, c'est le modèle socialiste. Dans leur bagage, les Russes ont emmené leurs alliés, ces pays satellites, sur lesquels s'est refermé le rideau de fer, sitôt la guerre terminée. Parmi eux, la Tchécoslovaquie, petit pays d'à peine 15 millions d'habitants, que la planète a appris à placer sur une carte en 1948 grâce à un drôle de phénomène et son nom aux trois syllabes qui claquent sur la cendrée, Zatopek, champion olympique du 10 000 à Londres.
Zatopek, avec une autorité et une volonté extraordinaire, augmente sans cesse son avance. Il double presque tous ses concurrents, sauf le français Mimoun, qui va prendre une magnifique deuxième place derrière le phénomène tchèque.
Un sacré champion que ce Zatopek, aussi rapide et endurant qu'il est moche à regarder. Avec sa tête qui ballotte de droite à gauche et ses grimaces incessantes. Un style particulier qui lui vaudra le surnom de locomotive humaine, un surnom qu'il assume avec fierté. Oui, je courais comme une locomotive, avec force et volonté, et non pas avec élégance ou talent. Mon style, il n'était pas beau. J'avais toujours ce visage acharné, rempli de grimaces. C'était ma façon de courir. J'aurais préféré que les gens ne me voient pas comme ça, mais bon, c'était quand même efficace, faut bien le dire. Oui, elle est diablement efficace, cette locomotive, et transporte avec allégresse les valeurs du régime. Émile est l'enfant chéri de la démocratie populaire, dont il va délivrer la bonne parole chaque semaine aux ouvriers et aux paysans. Et si Zatopek est officiellement officier dans l'armée, il est plus un militaire honoris causa qu'autre chose. Une sorte d'amateur marron qui bénéficie de tous les avantages du régime et trouve l'amour dans les bras de Dana, lanceuse de javelot de son état et fille de colonel, un couple vedette sur lequel reposent tous les espoirs du parti communiste tchèque à l'entame de ces Jeux d'Helsinki. Mes camarades, les Jeux Olympiques sont le sommet d'une carrière athlétique. Et comme votre entraîneur en chef, je suis très fier de vous et je serai toujours à vos côtés. Mais sachez que la seule force réside dans le collectivisme. L'individualisme ne signifie rien. Gloire au sport et à la paix. Et à la moisson de médailles, débute le 20 juillet par le 10 000 mètres que Zatopek va dominer de la tête et des pointes, battant une fois encore son rival de toujours, le français Alain Mimoun.
Zatopek se détache au 8e kilomètre malgré les efforts de Mimoun et déjà vainqueur, pour l'honneur et pour le public, prouve la force de sprinter. Dans une foulée étonnante, doublant pour la troisième fois certains concurrents, il remporte une victoire magnifique en 29 minutes 17 secondes devant Mimoun.
Une bataille de titans. Hein. Il a lâché tout le monde sauf moi. Il gagne. Bon, j'ai fini deuxième. Et trois jours après, c'était le 5000. Le 5000 du siècle.
Le 5000, seule distance sur laquelle Zatopek ne possède pas encore le record du monde. La concurrence est féroce, tout comme la bagarre qui va faire de cette course l'épreuve reine des Jeux d'Helsinki.
La cloche annonce le dernier tour.
Mimoun démarre et passe Zatopek. Mais Zatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire. Chataway tombe. Et en 14 minutes 6 secondes 6 dixièmes, Zatopek remporte une nouvelle et splendide victoire devant Mimoun à 8 dixièmes de seconde seulement.
Et le succès des 1000 va se transformer en triomphe des Zatopek quelques minutes plus tard, lorsque Dana se présente dans la zone de lancer, javelot en main. La jeune épouse va prendre exemple sur son champion de mari.
À Helsinki, après
la cérémonie des médailles du 5000 mètres, je faisais un tour d'honneur et elle est venue me voir avant de commencer sa compétition au javelot. Elle m'a dit « Oh, Emile, c'est fantastique, tu as gagné, mais fais-moi voir ta médaille d'or, je vais la toucher pour qu'elle me porte bonheur. » Et immédiatement après, pour son premier lancer, elle a battu le record olympique et remporté la compétition. Les amoureux vont célébrer leur médaille chacun à leur manière, pendant que Dana part faire la fête, guitare en main. Emile, lui, va se coucher. Il y a encore une course à gagner, le marathon, et ses 42 kilomètres qu'il n'a encore jamais couru. Mais rien, décidément, ne peut entraver la marche de la loco. Le 27 juillet, Zatopek, devant une foule en délire, décroche un troisième titre olympique.
Dans le stade, la foule attend dans le silence l'homme qui va paraître sous la voûte. Et Zatopek paraît. La foule hurle. Zatopek fait son dernier tour sans hâte et sans fatigue. Et après ses victoires des 5000 et 10 000 mètres, Zatopek battant le record olympique avec 2h23 minutes, ajoute à son palmarès une troisième victoire.
Le triomphe est total pour les deux tourtereaux qui rentrent à Prague où ils sont fêtés comme des dieux grecs. Et le régime de se délecter de ce succès, s'il a pu porter si haut le nom de sa patrie, clame la propagande, c'est uniquement parce qu'il l'aime si profondément, parce que son cœur, son esprit, chaque parcelle de son être est imprégné du plus pur patriotisme socialiste. Les portraits d'Émile fleurissent aux quatre coins du pays, un boulevard est même baptisé de son nom. Et il prend du galon, devenant commandant de l'armée populaire tchécoslovaque. Pendant quelques années encore, Émile va continuer à régner sur les courses de fond, établissant 18 records du monde, dont celui du 5000 mètres, qu'il décroche enfin à Colombes en 54.
Zatopek passe rapidement en tête et entame une course solitaire dans son style si personnel où s'allie la souplesse des jambes, la puissance du torse et le rictus de la volonté farouche. Au 1000, 2000, 3000 et 4000 mètres, Zatopek est très au-dessous des temps mondiaux de Gunderag. Puis il se met à doubler tous ses concurrents et réussit un dernier kilomètre fantastique en 2 minutes 43 secondes. Le record du monde du 5000 mètres est battu, Emile Zatopek conquiert un nouveau record avec une facilité déconcertante.
Mais le champion vieillit et ne gagne plus aussi souvent. En 56 à Melbourne, il ne s'aligne que sur le marathon, où pour la première fois, il est battu par son vieux copain Mimoun. L'année suivante, après avoir été nommé colonel, le camarade Zatopek prend sa retraite sportive et s'en va couler des jours heureux au ministère de la Défense nationale. L'histoire d'Emile aurait pu s'arrêter là, oui. Mais 10 ans plus tard, en 1968, elle va rebondir de manière abrupte après que les chars du pacte de Varsovie soient entrés dans les rues de la capitale pour mater le printemps de Prague.
Attention les tanks à droite.
Et pour nous tous, c'était pire que l'occupation allemande. C'était quelque chose de terrible parce que c'était un amour jeune qui était tué, un amour pour la liberté.
Et cette fois-ci, Émile le docile, Émile le modèle, entre en rébellion, se mue en patriote farouche et descend dans la rue pour faire face aux chars. Il prend même la parole pour dénoncer l'attitude soviétique. Le 26 août 1968, c'est vêtu de son uniforme de colonel qu'il répond en français aux questions du journal télévisé.
Elles sont contre notre démocratie, contre l'humanité, contre tout le progrès. Toutes les nations désirent la même liberté. C'est aussi une triste situation que sont démontrées les armes russes.
Des propos jugés anti-soviétiques que Zatopek renouvellera quelques temps plus tard à Mexico lors des Jeux de 68, où des diplomates suédois vont lui proposer l'asile politique. Mais Zato refuse. La Tchécoslovaquie, il l'a chevillée au corps. Alors, il rentre derrière le rideau de fer et sa vie devient un enfer. En avril 69, le monde apprend que rien ne va plus pour la locomotive.
Bien, une mesure répressive qui va beaucoup frapper les esprits, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Le colonel Zatopek est suspendu de ses fonctions pour avoir diffusé de fausses informations et pour sa conduite contraire aux ordres du ministère de la Défense.
Et ce n'est pas tout. Le colonel Zatopek est exclu du parti, interdit de séjour à Prague et expédié à l'autre bout du pays dans une mine d'uranium où il va passer 6 longues années dans les poussières radioactives. Son calvaire se poursuivra ensuite dans les faubourgs de Prague où le héros déchu sans le sou est contraint d'exercer le métier d'éboueur puis de terrassier. En 1975, enfin, le régime tchèque, en échange d'une autocritique en bonne et due forme, accepte de l'absoudre et de lui octroyer généreusement un emploi d'archiviste dans les sous-sols du ministère des Sports. Rabaissé et humilié par les siens sur ses terres, Émile trouvera le réconfort à l'étranger, où durant les dernières années de sa vie, il sera reçu partout avec les honneurs et les sourires. En 1979, il a même le plaisir de retrouver à Paris son vieux copain, Alain Mimoun, interrogé par Daniel Potrat.
Oh oui, toujours, c'est un grand plaisir pour nous.
Vous avez l'habitude de vous embrasser, hein?
Okay. Hein? mais plutôt après la course, avant la course, la nervosité, nous étions toujours un peu séparés.
Lequel des deux était le meilleur?
Je considère mon ami Émile Zatopek comme le plus grand champion de tous les temps, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'est un honneur d'avoir été son adversaire.
Mimoun, Zatopek, deux champions magnifiques qui chacun à leur manière auront marqué l'histoire de l'athlétisme. Mais au-delà de la légende du sport, Zatopek aura aussi écrit quelques pages du grand et tragique roman du XXe siècle dont il fut tour à tour un témoin privilégié, un exemple à suivre, puis un héros, rebelle et déchu.
Émile Zatopek, raconté par Christophe Cessieux, un C'était mieux avant encore extraordinaire, parce qu'on connaît tous ce champion Émile Zatopek, mais on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants parfois de sa carrière. Est-ce que vous savez pourquoi on connaît parfaitement Émile Zatopek? En tout cas, pourquoi ce sportif-là a dépassé le cadre du sport? Est-ce que vous savez? Non, pas du tout. Vous n'avez pas la réponse. Parce que, en fait, je suis un peu vieux et je joue beaucoup au mot croisé. Parce que j'adore ça.
Et en fait... Ah oui, parce que passer son nom, ah ouais. Ça rapporte des points, le Z et le K à la
non,
fin.
Non, c'est au Scrabble. Mais au mot croisé, il y a beaucoup loco tchèque, locomotive tchèque. Et en fait, à chaque fois, c'est Zatopek.
D'accord.
Et pour entrer un petit peu dans les mots croisés, on va dire français, ça veut dire quelque chose pour un sportif qui, c'était dans les années 50, 60, qui a quand même un petit peu disparu. Mais non, pas pour les mots croisés. Il est toujours, en tout cas, en quelque sorte, célébré. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce reportage?
Effectivement, on connaissait tous, mon papa, c'était un de ses héros, ce monsieur, donc ça me fait bizarre d'entendre ça. Et effectivement, on connaît la carrière sportive et tout ce que tu as raconté après. Enfin, c'est incroyable, c'est un héros, ce monsieur était un héros et franchement ça file les frissons parce que tu te dis ok, t'as une influence sur le sport et c'est vraiment bien déjà parce que avec Alain Mimoun, leur rivalité était incroyable, mais ce qui s'est passé après, ses convictions, le fait qu'il se batte pour ses convictions, qu'il soit prêt à tout pour ça, moi je trouve ça très impressionnant.
Marc, toi qui aimes l'histoire du sport, qu'est-ce que t'as envie de retenir là?
Ah bah là, une leçon, hein. Il y a de la tenue.
C'était mieux avant, c'est ça?
Ton émission, le titre de cette partie, pas très bien. C'était mieux avant. Et là, c'est la vérité. C'est quand même des grands, grands personnages. Il n'y a rien à rajouter.
Pascal Duprat.
Moi, pendant que je me régalais des commentaires de Christophe, ben j'ai un peu tapoté et je me suis rendu compte que c'était le premier homme à descendre sur le 10 000 en dessous de 29 minutes. Donc il avait le record du monde du 10 000 en 28,54. Donc j'ai poussé un peu plus loin la comparaison et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui le record du monde c'est 26,11 sur 10 000. Mais c'est pas beaucoup en fait si on regarde bien.
3 minutes en 40, 50 ans.
Ouais, 50 ans.
Ouais, mais les pistes ont changé.
C'était vraiment, c'est simplement pour situer les exploits de ces athlètes-là.
Non, mais ça,
qui avec
quand
le temps sont dilués, mais c'était des sacrés athlètes.
T'imagines le triplé quand même aux Jeux Olympiques.
Ah 5 000, oui, c'est 10 000
marathons. Qui n'avait jamais couru quand même. Hein.
Non, voilà. Ouais.
Il fait quoi? Il fait 2,23, c'est ça?
J'ai pas
les temps.
Il y en a d'autres qui ont réussi la même chose. Qui ont réussi à être champion olympique du marathon.
La dernière chose que je
que je voudrais rajouter, c'est que tu pourrais concurrencer Ondelat, Christophe, parce que tu prends bien
les accents.
Comment dire, ah, ouais. Les accents. Oui. Ouais, vraiment, c'est bien. Hein. Voilà. Et tu fais bien la femme aussi.
Alors, je suis très embêté parce que là, j'en ai préparé un sur Nadia Comaneci, mais je sais pas comment je vais faire pour faire sa voix. Parce qu'elle a quand même une voix d'adolescente prépubère, donc ça va être difficile quand même.
Vas-y, un test comme ça. Tu
fais ouais, je m'appelle Nadia, j'ai ton année, Montréal.
Ça n'a rien à voir, ça c'est Mickey, ça.
Donc, je sais pas, je vais demander à une jeune journaliste de m'aider sur ce coup-là, je pense.